Ray Lalonde, comment ça va?
Salut Marc, ça va bien toi?
Ouais, ça va, pas le choix d'aller bien, Ray, on va jaser un peu des chandails. On n'a pas le choix de jaser de ça de toute façon parce que c'est la grosse actualité, les chandails rétro inversés qu'on a sortis. Écoute, je te pose la question, j'imagine que la réponse est pour l'argent. Pourquoi on fait ça à ce moment-ci?
Ben, c'est pas le moment en tant que tel. C'est certain qu'il y avait besoin, là, au niveau du hockey, l'industrie avait besoin d'une espèce d'injection de confiance, d'optimisme puis d'enthousiasme. Puis il n'y a rien comme une collection de 31 chandails d'un coup qui peut faire ça. Alors, oui, on le fait pour l'argent, bien sûr. Mais je peux pas dire qu'ils ont planifié que, ah ben là, on a un problème de pandémie puis des revenus à la baisse qu'on sort des chandails. C'est un exercice, Marc, qui prend quand même là, presque 2 ans, mettre en place une réflexion stratégique entre Adidas et la Ligue nationale de hockey. Ça veut dire que tu dois d'abord avoir le hockey des gouverneurs, qu'on va faire une collection complète. C'est pas un troisième chandail pour un club ou deux clubs ou trois clubs. C'est littéralement une collection à travers la Ligue. Donc, les équipes doivent emboîter puis suivre. Mais pour gérer, coordonner, uniformiser 31 équipes pour qu'ils embarquent, qu'ils achètent le concept, pour qu'ils contribuent eux-mêmes à leurs éléments importants, leurs priorités dans le design, puis dans le côté artistique, le côté historique, le côté, si on veut, héritage du club, ça prend de la coordination, ça prend du temps. Il faut que tu fasses des allers-retours avec les équipes. On a, tu sais, avec les Canadiens, on a dirigé nous-mêmes le retour de 5 chandails historiques dans l'histoire du club. Puis en plus, on a participé au travail sur 2 chandails pour le match d'étoiles en 2009, qui était à Montréal. Donc, ça, c'est des exercices de longue haleine. Et timing-wise, c'était bon pour eux maintenant. Surtout qu'on s'attend à des nouvelles prochainement pour un début de saison puis des dates. Fait que moi, je pense que c'est évidemment aussi pendant juste avant la période des fêtes. C'est une bonne chose. Et c'est une belle réussite. On n'a pas de chiffres à ce niveau-là parce qu'ils sont même pas encore en vente. Mais je pense que le côté du buzz que ça a créé avec les médias sociaux, c'est très positif.
Comment tu trouves celui du Canadien?
Ben, honnêtement, là, je le trouve bien. Je trouve que ça a été fait simplement, mais de bon goût. C'est vraiment différent. On n'est pas habitué à ça. Le chandail des Canadiens, à mon avis, je l'ai dans le fond de mon cœur, c'est toujours un des chandails les plus mythiques dans le sport. Puis, tu sais, on n'a pas pris trop de risques. C'est assez conservateur, mais c'est quand même poudroyant comme effet. Donc, moi, je le qualifie d'un succès. C'est pas le plus beau parmi ceux que j'ai vus, mais il fait partie certainement des meilleurs dans l'ensemble, à part de 3-4 chandails que j'ai vus, là, pas mal impressionné par tous les chandails. Surtout que, Marc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été créatif. Certaines équipes sont retournées dans le temps puis ont pris leur ancien logo.
Ouais.
Certaines ont pris leur ancienne couleur. Certaines ont pris des racines qui étaient dans une autre ville, comme Québec ou comme Minnesota. Certaines ont fait une combinaison de 2-3 éléments pour varier. D'autres, comme les Hurricanes, ont pris tout simplement, littéralement, le chandail des Whalers Hartford. Alors, tu sais, chacun avait sa façon de faire dans un contexte assez général. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'énergie dans ces chandails-là. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été fait cette semaine.
Celui de l'Avalanche, reprendre le logo des Nordiques, dans le fond, côté stratégie pour l'Avalanche, ils peuvent aller chercher des ventes dans 2 marchés.
Oui, mais je vais t'expliquer un peu comment ces ventes-là fonctionnent. Dans l'ensemble de l'œuvre, mettons qu'un Connor McDavid ou un Sidney Crosby ou un Alex Ovechkin, tu sais, qui sont populaires partout, chaque fois que des chandails d'Ovechkin se vendent ou de Crosby ou McDavid, c'est pas de l'argent directement dans la poche de ces 3 équipes-là. Les équipes professionnelles de hockey, comme tous les sports, se divisent les revenus nationaux. Puis les chandails vendus partout en Amérique et partout dans le monde, Marc, font partie de ce qu'on appelle une source de revenus nationale ou internationale qui est ensuite redivisée comme les droits de télé à Sportsnet, Rogers, ou aux États-Unis, à NBC, quand c'est des matchs nationaux, ça va dans une poche. Cette poche-là, nationale, c'est 31 divisions.
Okay.
Donc, tout le monde reçoit, même si McDavid est plus populaire que des joueurs, je te donne l'exemple des Blue Jackets, ben les Blue Jackets vont recevoir la même part de tout ça parce que ça va dans une seule poche. La seule place qu'une équipe fait son argent elle-même, c'est quand ces chandails-là sont vendus dans leur amphithéâtre. Alors, si les Canadiens font des gros coups d'argent en chandails bleus vendus au Centre Bell, ça, cet argent-là, ils le gardent. Mais dès que c'est vendu dans un Rousseau Sport ou dans un Sport Expert ou dans une autre boutique au Québec, ah ben là, ça, cet argent-là est aussi divisé aux Bruins, aux Maple Leafs, qu'aux Red Wings, qu'aux Canadiens, même si c'est les chandails des Canadiens. Donc, ça, c'est important de noter. C'est pour ça que dans l'ensemble de revenus d'une ligue, les revenus de produits dérivés sont vraiment importants parce que c'est comme l'exemple des Bulls. Quand Michael Jordan était si populaire, les chandails des Bulls de Jordan, ça retournait pas dans la poche des Bulls, ça. Ça allait dans les poches de la NBA qui ensuite redivise ensemble. Fait que ça, c'est la différence entre des droits locaux et des droits nationaux. La seule place, c'est quand tu vends ça dans ton aréna ou une boutique, par exemple, qui t'appartient à toi comme équipe, là, tu as le droit à cette exception-là, mais autrement, là. Fait que c'est pour ça que je dis que les chandails vendus à Québec vont aider l'Avalanche, mais ils vont aider les Canadiens. Le chandail des Canadiens vendus à Los Angeles ne va pas dans la poche des Canadiens nécessairement, ça va dans la même poche.
Mais ça inclut évidemment le web, là, que quand tu dis que ça se partage également, les ventes de web sont incluses là-dedans aussi. Là.
Absolument.
TVA Sport, le site dans les coulisses, a mis la main sur les codes d'écoute. C'est rare à trouver des codes d'écoute au Québec, mais ils ont eu. Des émissions de Jean-Charles et des émissions de Dave Morissette le soir. Et on parle de 4 000, de maximum 18 000 pour ces émissions-là, même de 1 000 pour Dave Morissette le soir. C'est épouvantable, oui.
Bon, alors, oui, c'est épouvantable. Je peux pas valider ces chiffres-là. On va assumer qu'ils sont authentiques et intègres. Bon, ceci étant, TVA Sport vit des moments difficiles depuis quelques années déjà. La concurrence, la compétition au Québec est forte avec RDS et Bell. C'est une rivalité. Ce sont des adversaires, ce sont des concurrents. Je crois fondamentalement qu'il y a de la place pour deux au Québec parce que les gens au Québec sont assez diversifiés, aiment beaucoup de sports différents. C'est sûr qu'RDS a des années d'avance sur TVA Sport, tu sais, qui leur donne peut-être un avantage au niveau de certains droits de propriété qu'ils ont acquis au fil des années, des relations avec les différents produits dans l'univers du sport, avec les ligues sportives. C'est certain que le consommateur d'aujourd'hui, Marc, de toute façon, je suis obligé de dire que c'est pas vers la télé que ça se dirige, là, l'avenir. C'est sur le stream, c'est sur le web, c'est sur les plateformes, c'est sur ton téléphone. Fait que c'est pour ça que la jeune génération se désabonne, peu importe. ESPN n'est pas à la hausse depuis 10 ans consécutives facilement de baisse de chiffres en abonnement, mais c'est pour cette raison-là qu'ils ont lancé ESPN+. Tu comprends-tu? Disney+. C'est pour ça qu'il y a des bundles qu'on appelle, là, des regroupements de chaînes qui existent. C'est pour ça qu'il y a des Amazon Prime puis des Netflix. Puis c'est ça l'avenir de la consommation sur écran. C'est pas la télé classique traditionnelle linéaire qu'on avait. Donc, je suis pas étonné que ça soit difficile sans valider ces chiffres-là. Je trouve ça dommage que on n'est pas capable de faire vivre TVA Sport mieux financièrement, mais c'est encore une fois la stratégie, la tactique, la réaction de TVA Sport puis de Québécois, c'est à eux autres à la valider ou à l'affirmer. Une chose qui est claire, c'est que tu vois que ça peut, la pandémie occasionne de grandes difficultés à beaucoup d'industries. Et regarde les codes d'écoute, Marc, on en a parlé toi et moi déjà. Tous les sports, y compris le bijou du sport américain, la NFL, tous les sports sans exception sont en baisse. La NFL, c'est peut-être 8 à 10% actuellement. Mais finale de la Coupe Stanley, moins 61. Finale de la NBA, moins 38. Le Masters, la semaine dernière, ça s'est bien joué. Je l'ai regardé, ça a été extraordinaire comme événement. C'est quand même moins 40% versus l'an dernier.
Hey.
Puis c'est pas juste à cause de Tiger Woods, c'est parce que les gens sont ailleurs maintenant.
Est-ce que ça veut dire que des applications comme DAZN, qu'on connaît maintenant ici au Canada depuis quelques années, ça pourrait représenter l'avenir, selon toi?
C'est une portion de la recette de l'avenir, à mon avis, comme analyste. Mais ils vivent des temps difficiles, eux autres ici, DAZN, parce qu'ils ont investi de très grandes sommes d'argent pour acquérir les droits. Alors là, l'équation, pour le moment, ne convient pas. Ça veut pas dire que c'est pas l'avenir, ça veut pas dire que c'est pas... Mais c'est certainement dans cette veine-là qu'on se dirige. Mais Netflix, ça n'a pas été rentable du jour au lendemain non plus.
Non.
Alors, ça prend du temps là pour convertir, parce que tu dois dépenser beaucoup en capital pour acquérir des propriétés, des droits, des exclusivités. Netflix, écoute, juste récemment, DAZN a eu une bataille légale qui se déroule actuellement avec Canelo Alvarez. Il l'avait signé il y a 2 ans pour 11 combats pour 365 millions de dollars. Mais ils se sont rendus compte, ouais, c'est peut-être cher, surtout qu'actuellement, il n'y en a pas de grands combats de boxe parce que ça a été semi-anéanti par la pandémie. Fait qu'Alvarez lui-même attend son argent, il a pas son argent, il les poursuit. Il poursuit Oscar De La Hoya, son promoteur partenaire dans ce trio-là. C'est compliqué, ces choses-là. Alors, DAZN vit des moments difficiles. Il y a beaucoup, actuellement, Marc, de plateformes de contenu, beaucoup voulant dire trop, à tous les niveaux, sur le numérique. Trop de podcasts, trop de contenu sur YouTube, trop de chaînes. Puis là, les gens font des choix, puis il y a de moins en moins de qualité. Fait qu'il faut que tu creuses un peu pour trouver la meilleure qualité. Puis il faut toujours que tu te rafraîchisses, que tu te renouvelles pour garder les gens accrochés parce qu'ils ont des options faciles à la portée de la main. Écoute, c'est un bouleversement complet qui n'est pas dû à la pandémie, c'est juste dû à la façon de consommer puis l'avancement de la technologie aujourd'hui. Alors, pour venir à TVA Sports, comme tous les chaînes câblées ou satellites, c'est très difficile de préserver les abonnements et de rester dans une situation financière confortable.
Absolument. On va terminer ça, Ray, avec la NFL. Comment ça se passe? Comment tu analyses la saison de la NFL jusqu'à date? Parce que on n'est pas dans une bulle. Il y a eu des cas, il y a eu des matchs qui ont été rapportés. Comment tu trouves ça?
Je trouve que c'est bien, Marc. Honnêtement, quand même, faut se rappeler là, que ces temps-ci, aux États-Unis, il y a 140 000 cas par jour en moyenne de COVID, de tests positifs. Puis les décès atteignent presque 2 000. Alors, je veux dire, c'est compliqué, là. C'est compliqué d'opérer une ligue tout court. C'est compliqué d'avoir des activités de groupe. La NFL savait à quoi s'attendre. Ce que je reproche à la NFL, c'est qu'ils ne sont pas donnés vraiment de coussin. Mais à date, on est à mi-saison, puis il y a des cas à toutes les semaines. Puis il y a 2 semaines, là, il y avait 15 équipes dans la même semaine. 15 équipes avec des situations nouvelles. Je pense que les Raiders sont 7 cas. Puis il y a une des équipes actuelles, je pense qu'ils cherchent au niveau défensivement. Peut-être que leur équipe, leur unité défensive est compromise au complet. Fait que tu vois que c'est compliqué. Mais pendant ce temps-là, ils avancent. Il y a de la compétition. Il y a de l'engouement. Il y a quelque chose d'intense comme situation au niveau du classement. Il y a des stories, des histoires, que ce soit Tom Brady à Tampa Bay, que ce soit les Steelers qui sont imbattables.
Ouais.
Que ce soit des équipes là, qui déçoivent, que ce soit les Bills de Buffalo qui finalement ont une chance de prendre la division S de la conférence américaine. Toutes sortes de bons sujets. Fait qu'on patauge, puis on avance, puis on s'en va vers une série, puis des Super Bowls, puis peut-être qu'on va devoir modifier le modèle de série, peut-être qu'on va devoir insister pour des bulles, puis peut-être qu'on va forcément réduire la capacité à Tampa pour le Super Bowl, ça a déjà été annoncé. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que ce que j'aime de la NFL, c'est qu'il serre la vis à tous les jours. Il continue d'intensifier les conditions puis les protocoles, puis les mesures. Fait que là, autrement dit, ils savent que le problème est grave, mais il y a un enjeu majeur. Tu le sais, Marc, la NFL, c'est une business littéralement d'à peu près 18 milliards de dollars US annuellement. Ils peuvent pas se permettre de compromettre puis de rater des matchs puis une saison puis d'avoir moins d'intégrité. Donc, ils vont continuer d'intensifier les règles à suivre pour les équipes, pour les joueurs, dans les vestiaires, aux entraînements, dans les centres d'entraînement, dans les meetings qui vont devoir être tous virtuels, porter des masques, ça va être constamment, même dans le vestiaire, en préparation d'aller sur le terrain. Écoute, mais pendant ce temps-là, on roule notre boss. Il y a un tournoi de tennis de l'ATP finale à Londres ces temps-ci, cette semaine, tu avais le Masters la semaine dernière.
Ouais.
La NBA reprend le 22 décembre. On continue à rouler. La NCAA trébuche des fois. Il y a des équipes qui ont raté des matchs comme Wisconsin, par exemple. La Ivy League, cette semaine, au sport universitaire, tout court, tout sport confondu, ont cancellé leur année. Mais le hockey universitaire a repris la semaine passée. Tu avais des matchs Wisconsin contre Notre Dame. T'sais, alors, je veux dire, honnêtement, faut quand même applaudir la poursuite des activités, malgré le fait que les conditions sont extrêmes et sont difficiles, sans perdre de vue aussi qu'il y a une souffrance énorme dans la société mondiale.
On remet ça dans 2 semaines. Ray, merci beaucoup.
Avec plaisir, Marc.